Paradigme numéro 2, réduction et extrapolation. Haïm se gara derrière la Renault 9 de Gourevitch. Le rétroviseur était retenu tant bien que mal par d'abondantes lanières de ruban adhésif, de sorte qu'on ne pouvait rien y voir. Pourquoi a-t-il un rétroviseur s'il ne peut pas s'en servir? Il y a vraiment des gens bizarres. Il poussa la porte d'entrée du vieil immeuble, mais celle-ci refusa de coopérer. Il essaya encore une fois. Rien. La porte, non convaincue, resta invaincue, invincible et inébranlable. Haïm avait horreur qu'on se paie sa tête, et encore pis, qu'on regarde à travers lui sans le voir. Il se résigna à passer outre, ne pouvant passer du tout. Il se rendait maintenant compte de son inexistence anéantie par la volonté immuable et imbécile de cet huis clos. Mais une vive lueur d'espoir surgit soudain dans son esprit tourmenté. Il se souvint de ce que dans cet immeuble étriqué et petit bourgeois, on n'aimait pas les étrangers. Pour entrer, il fallait d'abord sonner. Parfois, on recevait un accord tacite, traduit par une vibration électromagnétique. Cela pouvait se terminer par l'entrebâillement momentané et éphémère de la porte. Le système fonctionnait à merveille. Si l'on n'était pas assez souple et déterminé pour aller de l'avant, le faible rayon d'espoir se refermait automatiquement sur une éternité morose et opaque. Et on restait dehors. Haïm pressa le bouton. « Qui c'est ?» demanda la voix de Gourevitch, hachée menue par les 30 petits trous de la grille qui protégeait le haut-parleur. « Plein gaz !» annonça Haïm, le nez courbé sur ses perforations si éloquentes. « Bzzz, bzzz !» répondit Gourevitch avec son doigt. « Troisième étage à droite, y a pas d'ascenseur !» On notera que la dernière phrase semblait provenir de la bouche et non du doigt. Gibotero parlait correctement le gourevitchien. Il n'eut pas de mal à se faire comprendre. Aussi pressa-t-il le bouton de la sonnerie collé au chambranle de l'entrée du petit appartement. La porte s'ouvrit d'un quart timide et chétif. Le nez pointu de Gourevitch apparut dans la pâleur du matin qui s'introduisait par la lucarne poussiéreuse du palier. Deux petits yeux marrons et curieux surmontaient cet organe antique. Ils scrutèrent Haïm des pieds à la tête. Par un miracle incroyable de la nature, l'univers tout entier se concentrait et se repliait autour de l'image idéale de l'homme. Cet homme était le sujet de la nostalgie languissante et des espérances secrètes des galaxies les plus inaccessibles. Celles-ci s'unissaient autour de cet être, pâle et triste, debout devant le seuil. L'identité inassujettissable de l'un, indivisible et incomparable, était bien là. Elle demeurait permanente, consistante, immanente et farouchement transcendantale. C'était Haïm Gibotero en uniforme de la maison plein gaz. Cette singularité, propre à son possesseur, s'accompagnait d'une autre identité à la fois différente et similaire, celle d'un technicien du gaz de la société en question. Le tout constituait une entité irréfutable, indubitable et fondamentale à laquelle Gourevitch lui-même ne se trompa pas. Radieux, il s'écria « L'homme est un univers en petit et l'univers est un homme en grand !»« Indubitablement !» ajouta Madame, citant inconsciemment le gruyère qui tue. Cette unité irrésistible et absolue fut néanmoins rompue en une diversité d'événements où se reflétait une dialectique opiniâtre de causalité et de finalité. Le résultat s'énonçait en trois phénomènes qui se produisirent presque simultanément. 1. Madame Gourevitch ferma la porte derrière Gibotero. 2. Monsieur Gourevitch trottina vers le cœur du sujet. 3. Haïm lui emboîta le pas sans rechigner. Cette nouvelle étant sous-titrée de l'épithète philosophique, il conviendra de prendre une respiration profonde avant de lire les trois phrases suivantes. On aurait pu considérer, par erreur, ces trois phénomènes comme totalement séparés les uns des autres. Les maillons de la chaîne qui les unissaient se composaient en fait des boucles fermées à l'infini. Leurs atomes crochus et rancuniers ne laissaient rien passer qui ne leur appartienne, même pas la présence d'atomes voisins, constituant des molécules dont le sens profond serait en fait la reconstitution évidente d'une chaîne d'événements. Mais l'observation et la logique ne faisaient aucun doute. Les trois actes s'enchaînaient, s'emboîtaient le pas, comme les trois ombres taciturnes qui traversaient le salon l'une derrière l'autre, vers un avenir meilleur et un futur imminent. Par malheur, le paroxysme tragique de cette malheureuse journée était encore à venir. On s'en rendrait compte si l'on se donnait la peine de sauter quelques lignes vers le bas de ce récit effroyable. N'anticipons pas et ne dévoilons encore rien de ce qui va se passer, de façon à retenir le lecteur et ou la lectrice dans l'attente d'un dénouement inexorable qui ne saurait tarder.
Dis, tu es payé à la ligne ou quoi ?
Tu ne comprends rien aux romans d'action sordides et aux téléfilms populaires bon marché qui font haleter les femmes de ménage. Ferme-la et laisse rédiger.
Rédiger l'impossible pour le rendre possible à digérer, en sorte.
Qui eût prédit et qui eût cru que le mouvement de ces trois paires de pieds les conduirait vers l'endroit le plus sinistre et le plus ténébreux de cet immeuble étriqué et incolore ? Cette question rhétorique et stupide n'était surpassée en vanité que par la réponse formidable qu'elle entraînait fatidiquement. Or, cette réponse, même le plus borné d'entre nous reconnaîtra qu'elle avait peu de rapport avec la question telle qu'elle était posée. Elle nous est donc livrée telle qu'elle, mal rédigée et mal digérée. Quoi ? En trois mots. La petite courette de la cuisine des Gourevitch.
8, pas 3. J'ai compté.
9 avec la question. Mais ferme-la donc, pour l'amour du ciel.
Le doigt de Gourevitch, qui décidément commençait à prendre une place disproportionnée dans cette étrange histoire, désigna le ballon de droite. Haïm se pencha au-dessus de la bouteille et demanda un sachet à ordures, vide de préférence, et une pelle du même nom. Il avait l'air mécontent. Cela se voyait surtout par la ligne à la fois oblique et arquée qui divisait son visage en deux parties inégales mais cependant symétriques. Cette répartition anthropique se remarquait par un déséquilibre qu'un œil attentif aurait pu qualifier de « rictus » si un œil avait le droit de qualifier quoi que ce soit. Cette ligne commençait en haut, là où l'on ne voyait déjà plus la houppe blonde qui ornait jadis la tête à demi chauve. Elle passait dans un goulot profond entre ses deux sourcils courroucés. Puis elle descendait gentiment le long de son nez, lequel déviait un moment de sa trajectoire habituelle. Cette proéminence bizarre semblait un électron allant à la dérive après une catastrophe nucléaire. La ligne se perdait enfin en gémissements mal retenus par les lèvres contorsionnées et le menton fuyant d'horreur. Deux raisons causaient la séparation inégale du personnage en deux entités si contraires et si parallèles à la fois. À première vue, les yeux, les joues, les mains et les pieds d'un individu semblent identiques. C'est une simple illusion, un méchant effet d'optique. Les membres se caractérisent par la symétrie, mais non par la similarité. Cependant, la personnalité du représentant de la maison plein gaz était secouée d'un frémissement convulsif qui provoquait au plus haut point ce phénomène de ligne mi-oblique et mi-circulaire qui marquait son visage morbide. Seul un prix Nobel de mathématiques, et pas n'importe lequel, parviendrait à décrire en une formule cette courbe bizarre et impressionnante, mais cela prendrait au moins 3 pages aux lignes serrées. En résumé, un spectacle immonde. Haïm se baissa, retenant sa respiration. Il ramassa la charogne du chat avec la pelle et la fourra dans le sachet de plastique qu'il referma prestement. Puis il jeta le tout dans la poubelle sympathique et inoffensive que lui tendait la vieille Gourevitch. « C'est réparé ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit Haïm. « Combien on vous doit ?»« Je n'ai pas le tarif sur moi, je vais demander à mon patron. »« Laissez voir, 50-50, ça va ?»« Je peux téléphoner de chez vous ?»« Ah, sûrement pas !» s'écria la ruine. « Appelez sur votre portable !»« Sur quoi ?» demanda Haïm assez surpris. « Faites pas attention !» dit Gourevitch. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit, la malheureuse. Comme l'indique la première page de cette sottise, on l'a pas encore inventé, le portable. Appelez tant que vous voulez. »« Malheureux son mari !» maugréa l'antique épouse en quittant la courette d'un pas rageur. Gali, salut, c'est Haïm. Combien c'est une charogne de chat derrière les ballons? 85? Demande-lui si 50 ça va. Gourevitch. Ça va? D'accord, merci. Haïm se tourna lentement vers son hôte et affirma. Vous avez eu de la veine, vous auriez pu crever d'une indigestion carabinée. Plutôt, faudrait faire un effort pour étanchéiser un peu vos ballons, non? Haïm refusa l'ascenseur qui s'ouvrait devant lui et prit l'escalier. La raison était d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans cet immeuble ridicule. Tout en exécutant sa descension, il pensait. Ces deux journées ressemblaient vraiment à de la télé-réalité. Le thème du chat et des ordures en filigrane à chaque marche de l'histoire et à chaque phase de l'intrigue le soutenaient dans celle de l'escalier.
Résumons. Qu'avons-nous là? Un portable, un non-ascenseur, une télé-réalité. Tu trouves pas que c'est un peu trop chargé pour cette pauvre bougresse d'année 82?
Tu vas la fermer, dis. Laisse écrire.